midi, 14h. Entre nous, sur RDL.
Merci Claire, prochaines infos tout à l'heure à 13h. Soyez les bienvenus, Entre nous démarre sur RDL jusqu'à 14h. On est entre nous, on essaie de résoudre les petits problèmes du quotidien, on essaie de s'informer, puis de sourire aussi un petit peu aussi. Aujourd'hui, on parlera de droits et de droits des familles, en particulier avec notre invitée qui est Fanny Malbranque, avocate au barreau de Béthune. Bonjour maître.
Bonjour Jean-Marc.
Merci d'être là, d'être avec nous.
Merci à vous de m'avoir invité.
C'est une première sans être une première parce que vous êtes une habituée du micro de RDL, mais il y a déjà quelques années.
C'est ça.
Et vous revenez aujourd'hui pour nous parler de votre profession, de votre métier, surtout aider les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à résoudre parfois des petits conflits familiaux, des problèmes qu'on peut rencontrer avec le droit. Donc, si vous êtes prête, on va pouvoir y aller dans un instant, après une chanson, et on invite nos auditeurs et auditrices à nous appeler au 03 21 38 90 51 pour nous poser leurs questions. 03 21 38 90 51.
Midi 14h, entre nous, sur RDL.
Aujourd'hui, on parle de vos droits, vous, dans votre famille, avec notre invitée aujourd'hui, maître Fanny Malbranque, avocate au barreau de Béthune, et on attaque, si vous voulez bien, Fanny, avec une première question, c'est parti. Avec Myriam de Saint-Omer qui nous dit: depuis le divorce de mon fils, mon ex-belle-fille a eu la garde des enfants. Mon fils a bien sûr un droit de visite, mais elle refuse de nous laisser voir nos petits-enfants. Nous n'étions pas très proches avec ma belle-fille, mais est-ce que cela lui donne le droit de nous priver de nos petits-enfants, nous demande-t-elle.
Alors, choses sont un petit peu particulières dans ce cas-là, puisque en réalité, les grands-parents ont la possibilité de voir leurs petits-enfants via l'intermédiaire de leur fils. Ils ne sont pas fâchés avec leur fils, qui apparemment a les enfants un week-end sur deux, j'imagine, et la moitié des vacances scolaires.
D'accord, oui, c'est ça, oui.
Voilà, donc on ne surajoute pas généralement un droit de visite parallèle des grands-parents sur celui de la belle-mère, on va dire, enfin de la mère des enfants, puisqu'elle, elle serait dans ce cas-là privée des week-ends. Donc la difficulté, les parents peuvent par contre rester en justice si c'était leur fils qui refusait, pendant à l'occasion de ses droits de visite, de rencontrer les grands-parents, si vraiment il y avait une impossibilité totale pour les grands-parents de rencontrer leurs petits-enfants. Là, on n'a pas cette impossibilité,
non,
puisqu'ils ont la possibilité de les voir quand ils sont en droit de visite chez leur fils. Si en revanche, les grands-parents sont dans l'impossibilité totale de voir leurs petits-enfants, là, ils ont tout à fait la possibilité de saisir le tribunal. Hein, c'est reconnu.
Il y a un droit du grand-parent,
droit.
D'accord.
Tout à fait, okay. Toujours dans l'intérêt de l'enfant, mm-hmm. Hein, mais la loi spécifie bien que l'enfant doit avoir des relations avec ses grands-parents si c'est son intérêt. Donc, sauf cas exceptionnel grave qui empêcherait ou l'enfant oui. n'aurait pas intérêt à voir ses grands-parents. Oui. En principe, les conflits liés à ses parents et grands-parents n'a pas interféré sur le fait qu'il rencontre ses grands-parents. Alors cette procédure, elle se met en route auprès du tribunal. La petite particularité, c'est que c'est une procédure qui nécessite forcément l'intervention d'un avocat.
Oui, d'accord.
On ne peut pas faire la procédure soi-même. Il faut saisir un avocat, mais en tout cas...
Mais un juge peut décider que les enfants soient mis à disposition des grands-parents selon une périodicité
voilà.
à convenir. Quoi.
Voilà, souvent ça peut être... Alors la périodicité est différente, mais souvent ça peut être par exemple un week-end ou un dimanche par mois, mmh. et puis une petite partie des vacances, ou notamment au moment de Noël, 2-3 jours, selon ce qui est demandé par les grands-parents, et c'est... Oui, c'est tout à fait prévu.
D'accord. Myriam, vous avez donc des droits sur vos petits-enfants, voyez donc directement un avocat qui pourra vous renseigner et vous aider sur la procédure à faire. Vous continuez à nous appeler, bien sûr, 03 21 38 90 51 pour poser toutes vos questions sur le droit des familles, en particulier à notre invitée Fanny Malbranque.
RDL, entre nous, avec Jean-Marc Rachia.
Et avec maître Fanny Malbranque, avocate au barreau de Béthune, qui répond à toutes nos questions sur le droit des familles, en particulier avec cette question, maître de Odile de Coquel. Je suis sur le point de divorcer. Mon mari insiste pour que nous ayons le même avocat pour faciliter et accélérer la procédure. Effectivement, ça doit pouvoir être possible, mais on sent qu'elle n'est pas très enthousiaste, elle est assez indécise. Est-ce que Odile doit écouter son mari ? selon vous?
Alors, la question est réglée assez rapidement, Odile, puisqu'en réalité, effectivement, avant, on pouvait prendre le même avocat et ce n'est plus possible.
Ah bon?
Depuis, non, voilà, il y a une réforme du divorce, puisque c'était possible quand on faisait un divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire
c'est ça,
on
ouais.
était d'accord sur la totalité du divorce, on pouvait prendre le même avocat qui rédigeait la convention de divorce et la soumettait en fait ensuite au juge, qui était là donc pour vérifier que les intérêts de chacun étaient préservés, que l'accord des parties, les personnes étaient bien d'accord avec le consentement mutuel et tout ce qui était indiqué dans les conventions. Et aujourd'hui, le divorce par consentement mutuel ne se fait plus sous l'office et sous l'office du juge. Mais maintenant, on rédige des conventions de divorce par consentement mutuel et elles sont juste homologuées par un notaire.
D'accord.
Voilà. Et c'est pour cette raison que la loi a modifié et a exigé que chaque époux ait son propre avocat pour pouvoir réellement être pleinement informé, qu'il y ait une totale indépendance.
Donc du coup, on passe par le notaire, mais il faut quand même avoir un avocat.
C'est les avocats, en fait, qui rédigent la convention.
Ah oui,
la base, c'est l'avocat. Et ensuite, pour, je dirais, enregistrer l'acte qui avant était enregistré par le juge au tribunal, c'est le notaire qui fait un acte authentique, une grosse, enfin voilà, pour que ça lui donne foi. Après, voilà, ce notaire, il n'est pas là en réalité pour vérifier que les intérêts ont été préservés. Il est là pour vérifier que tout est bien indiqué dans la convention. Voilà.
Donc, du coup, ça facilite et ça accélère la procédure par rapport à avant.
Ah oui,
c'est plus simple.
Oui, puisqu'avant, quand les conventions étaient faites, on dépendait d'une date du tribunal qui pouvait parfois intervenir de manière assez lointaine. Mmh. Là, très clairement, une fois que les conventions sont rédigées et qu'on les adresse au notaire, il a 15 jours pour enregistrer l'acte.
Donc, ah oui, d'accord. Donc,
voilà.
Avant, ça pouvait prendre plusieurs mois.
Au bas mot. Mais l'autre côté, c'est effectivement qu'il faut désormais avoir chacun son avocat. Mais la question d'Odile restait quand même, je dirais, pertinente, parce qu'on a encore beaucoup de gens qui pensent qu'on peut avoir le même avocat.
Ben, ça devait être le cas du mari d'Odile, apparemment.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup. Continuez à nous appeler, bien sûr. On continue à répondre à vos questions au 03 21 38 90 51 aujourd'hui avec Maître Fanny Malbrang.
Jusqu'à 14h, entre nous, avec Jean-Marc Rachia sur RDL.
On est entre nous jusqu'à 13h avec Fanny Malbrang, qui est avocate au barreau de Béthune et qui répond à vos questions au 03 21 38 90 51. C'est le numéro qu'a composé Sandrine, qui est avec nous. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour.
Bonjour Sandrine. Sandrine, vous habitez Arc, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Et vous avez une question pour Maître Malbrang, on vous écoute.
C'est ça, oui, bonjour Maître.
Bonjour.
En fait, la situation est un peu compliquée. J'ai fait une demande de divorce en 2018. J'habitais dans le secteur des Nimbeaumont, donc je dépendais du tribunal de Béthune.
Oui.
Monsieur n'avait pas pris d'avocat. Donc c'était juste mon avocate qui a géré, on est passé devant le juge. Ma demande de divorce a été refusée.
D'accord.
Alors même mon avocate n'a pas compris pourquoi exactement ça avait été refusé. Le problème, c'est qu'entre-temps, monsieur a quitté le domicile conjugal sans prévenir. Et il s'est retrouvé, il est parti vivre sur Audrecel. Donc mon avocate m'a dit qu'elle ne pouvait plus me défendre sur la côte. Donc il fallait que je prenne un avocat qui dépend de la côte de Boulogne.
Oui.
Donc j'ai refait une deuxième procédure de divorce. Qui n'a pas été achevée parce que monsieur est décédé au mois d'avril.
D'accord.
Donc, en dehors de devoir payer ses frais d'obsèques, les ennuis de ses dettes, de tout ce que j'ai dû gérer au moment de son décès, je voulais savoir si mon avocate avait le droit de me réclamer la procédure de divorce qui n'a pas été terminée.
Au niveau des honoraires, elle peut vous réclamer les honoraires pour le travail qu'elle a effectué. Je ne sais pas à quel stade vous en étiez de la procédure de divorce. Effectivement, le divorce s'arrête, hein, puisque votre mari est décédé, donc il y a plus de divorce possible. Elle peut pas vous réclamer la totalité des honoraires si ils étaient déjà fixés à l'avance pour la totalité de la procédure. Maintenant, elle peut tout à fait vous demander le prorata du travail qui a été effectué.
D'accord.
On comprend votre situation, ça ne doit pas être simple quand même, parce que vous vous retrouvez donc avec toutes les factures et toutes les dettes de votre mari.
Donc, c'est ça, j'ai dû vider, parce que son propriétaire m'a contacté, j'ai dû vider sa location, nettoyer, remettre le logement en état. Fermer les compteurs d'eau, d'électricité, donc tout le monde me demande mon adresse pour m'envoyer les factures de qui doit ou les factures de fermeture de compteur. Voilà, je récolte tout et puis payer ses frais d'obsèques, alors que je trouve ça tellement injuste d'avoir une procédure qui dure depuis 2018.
Oui.
Et que malgré tout, étant la veuve, c'est à moi à devoir régler.
Vous n'aviez pas d'enfant avec monsieur ?
Non, on n'avait pas d'enfant. Lui avait les siens.
Ah oui.
Mais il ne voyait plus ses enfants depuis au moins 8 ans. Donc ses enfants, ils ont dit qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec tout ça.
Oui, bien sûr.
Merci Sandrine.
Les enfants, il n'y en a qu'un de majeur. Donc voilà.
D'accord.
On vous souhaite bon courage parce que c'est une situation difficile à assumer, mais vous allez vous en sortir. C'est une nouvelle vie qui commence aussi pour vous d'une certaine manière.
Ah oui, c'est sûr. Il y a bien longtemps qu'elle est recommencée, mais c'était pour garder les petits
éclaircissements.
Voilà.
On est là pour ça aussi. Merci Sandrine. À bientôt.
Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.
Au revoir, madame.
Au revoir. Je précise que comme Sandrine, si vous voulez nous appeler 03 21 38 90 51, vous pouvez le faire de manière anonyme. Hein, on n'est pas obligé de donner son vrai nom à l'antenne quand on a une situation un peu délicate. Et si on n'arrive pas forcément à résoudre un cas épineux, difficile, comme ça au téléphone et à la radio, en tout cas, on essaie de vous donner quelques petits conseils pour améliorer votre quotidien.
Jusqu'à 14h, entre nous, avec Jean-Marc Rachia sur RDL.
On parle de droit aujourd'hui, de vos droits, avec Maître Fanny Malbranque, avocate au barreau de Béthune, avec une question, Fanny, de Simon de Ardelot. Nous avons acheté une maison il y a 5 ans. Depuis quelques mois, nous avons un nouveau voisin qui a entrepris de faire de gros travaux dans cette maison qui avait été laissée à l'abandon. Il y a mitoyenneté, nous précise-t-il. Nous comprenons que son désir d'en finir au plus vite avec ses travaux qu'il fait lui-même, mais il est bruyant, forcément, à toute heure du jour et du soir, semaine comme week-end. Comment limiter ses nuisances ?
Alors effectivement, ça fait partie des difficultés lorsqu'il y a une mitoyenneté. Je pense que bon, pour garder des bonnes relations de voisinage, puisque j'imagine que si cette personne rénove la maison, c'est dans le but de s'y installer et d'y rester un petit moment. Oui. Moi, je vous invite à essayer de dialoguer avec votre voisin en lui disant peut-être de limiter à certaines heures les travaux qu'il fait. S'il n'y a pas possibilité de dialogue, vous avez la possibilité de saisir un médiateur également, qui peut être là pour rappeler effectivement qu'il y a certaines heures, en tout cas le week-end.
Que dit le droit justement ? Est-ce qu'il y a certaines heures ? Est-ce que la notion de tapage nocturne ou tapage de week-end existe dans le droit ou pas ?
Oui, il y a effectivement le tapage nocturne, mais il y a même aussi le tapage diurne journée, si c'est un bruit qui est anormal, qui est toute la journée, enfin qui peut nuire en tout cas. Alors c'est une question d'appréciation. Effectivement, il y a possibilité d'intervenir. Alors après, si on n'arrive pas à faire par le biais d'une médiation, il y a possibilité de le faire constater, ou de faire effectivement une procédure
par un
huissier de justice, ou faire intervenir les services de police qui constateraient qu'il y a un bruit effectivement qui est très important. Voilà, après on a plus l'habitude des tapages nocturnes avec des fêtes ou des soirées.
Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Bon, là, si la journée, même si c'est gênant, c'est un bruit de perceuse, ça pourra être toléré. Si effectivement votre voisin a décidé de percer à minuit, là, on peut considérer que c'est.
Oui, on imagine qu'il casse des murs, qu'il perce,
Voilà. Après, si c'est en journée, malheureusement, c'est compliqué de l'en empêcher. Et on a tous le droit un petit peu de faire du bruit. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas de volonté d'embêter. Lui, il fait des travaux, il est tenu à ça.
Visiblement, Simon n'a pas non plus envie de trop embêter son voisin, mais il souffre quand même. Simon, on vous conseille donc de privilégier le dialogue.
Je pense.
Et d'entamer tout de suite des très bonnes relations avec votre nouveau voisin. Et puis, allez lui donner un coup de main, comme ça, les travaux
ça
seront terminés plus rapidement. Merci, Maître Malbranque. Vous restez avec nous. On est encore ensemble jusqu'à 13h pour parler de tous ces problèmes de voisinage ou de famille.
Midi 14h, entre nous sur RDL.
Dernière ligne droite pour parler avec notre invitée aujourd'hui, Fanny Malbranque, avocate au barreau de Béthune, à propos de vos problèmes de droits familiaux en particulier. Une dernière question un peu compliquée, Fanny, si vous me permettez. Je vais réclamer toute votre attention, ainsi qu'à vous, chers auditeurs. Voici Denis de Hecq qui nous dit « Je suis séparé, j'ai deux enfants de 12 et 15 ans en garde alternée, strictement équilibrée, une semaine chacun. Au niveau financier, nous partageons la totalité des dépenses à parts égales, même si madame bénéficie des aides de la CAF. Jusque-là, ça va?
Oui, très bien.
Ma question porte sur l'allocation de rentrée scolaire. Techniquement, je n'y ai pas droit, c'est donc la mère qui la touche. Peut-elle l'utiliser pour des dépenses personnelles, de type ameublement ou autre? Cette prime doit-elle servir uniquement à assumer des dépenses communes? Est-ce que je peux exiger que cette prime serve à prendre en charge les frais de rentrée, que j'ai déjà engagés d'ailleurs personnellement, genre habits ou fournitures scolaires? Alors, cette fameuse prime de rentrée scolaire que les gens vont toucher d'ici quelques mois maintenant.
Tout à fait.
Comment ça se passe en cas d'une séparation comme celle-là?
Alors, l'allocation. Alors, il y a une petite spécificité. Il y a eu un changement puisque désormais, on peut chacun être allocataire quand on est en résidence alternée des allocations familiales. Mmh. Donc, soit effectivement. Ça, c'est un choix. Hein. Soit on considère qu'il n'y a qu'un seul parent qui va les percevoir, soit on peut être tous les deux allocataires, sauf justement pour l'allocation rentrée scolaire, où là, cette allocation, elle est versée au premier qui en fait la demande.
Ah oui?
Voilà.
Donc c'est la course, alors?
C'est ça.
Excusez-moi, je vous interromps. Il faut faire la demande? Je pensais qu'elle était automatique, elle tombe automatiquement.
Ah bah, je pense qu'elle tombe automatiquement, mais,
ah oui, mais dans ce cas-là,
la
oui.
demande à qui elle va être versée. Voilà. Alors, d'accord. Je pense qu'une fois que vous avez dit, moi, elle est plutôt versée, par exemple, à la maman, mm-hmm. J'imagine que les autres années, sauf changement, ce sera toujours versé à la maman. Merci. Alors, en principe, il est indiqué qu'il y a un engagement moral de partager cette allocation rentrée scolaire. Mais il n'y a aucune véritable obligation légale. C'est la difficulté. Comme il est difficile, et c'est pas une exigence ni de la CAF non plus, que cette allocation rentrée scolaire soit utilisée. C'est le but, qu'elle soit utilisée pour les enfants.
C'est invérifiable de toute façon.
Voilà, tout à fait.
On peut acheter un téléviseur avec.
Voilà. Et c'est vrai que. C'est toujours compliqué parce que parfois on a aussi où lorsqu'un parent paye une pension alimentaire, il dit oui mais j'ai pas l'impression que ce soit utilisé pour l'enfant. Mais ça c'est absolument
c'est
pas
le libre arbitre de la maman en l'occurrence de dire je sais ce qui est bon pour mon enfant et voilà.
Ça peut quelque part vivre avec son enfant, ça peut être aussi pour payer une facture d'électricité parce que l'enfant vit dans la maison. Hein.
Bien sûr.
Mais l'allocation rentrée scolaire pour le coup elle n'est pas partagée.
Merci pour cette question, Denis. J'espère que vous avez une réponse satisfaisante. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont envoyé ces questions. Et merci à vous, Maître Fanny Malbranque, pour cette heure d'émission très intéressante.
Merci à vous pour cette invitation.